Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Moi c'est Philippe et je co-anime en alternance cette émission avec Jean-Pierre. Malgré le confinement, Radio Campus Tour reste actif en vous proposant des programmes faits maison pour vous aider à passer un confinement plus agréable et en essayant de vous divertir autant que possible. Alors au programme aujourd'hui, des chroniques préparées à domicile par les animateurs de Radio Campus Tour, il y aura un documentaire, deux films et une interview décalée pour vous aider à passer le temps. On va commencer par Jean-Pierre qui va vous faire découvrir le film Proxima et après on passera à Solène qui vous parlera du documentaire Vagabondage. Et nous, on se retrouve juste après. Restez confinés, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tour.
5, 4, 3, 2, 1.
I never thought that one day I'd be saying the last mission before Mars, and yet here we are, making last preparations for the long journey.
Je vais donc vous parler cette semaine de Proxima, réalisé par Alice Winocourt. Le film est sorti à la fin de l'année 2019, fin novembre, avec au casting Eva Green, Matt Dillon et Zélie Boulante-Lemel, entre autres. 1h46, troisième film pour Alice Winocourt, jeune réalisatrice, puisque je crois qu'elle est née en 1976, qui avait précédemment signé Augustine et Maryland, et également le scénario de Mustang. Sarah est une jeune astronaute française qui s'apprête à quitter la Terre pour une mission d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astronautes, la seule femme au milieu d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans. Je voulais filmer une super-héroïne qui est aussi une mère, parce qu'au cinéma, les super-héroïnes sont toujours montrées sans enfant, a déclaré Alice Winocourt au cours de la promo du film. Elle rappelle à cette occasion que l'héroïne pourrait aussi être une cinéaste s'apprêtant à s'embarquer sur un long tournage ou une ingénieure s'embarquant sur une plateforme pétrolière. Alice Winocourt ajoute enfin qu'elle a voulu montrer ici la double difficulté des femmes à affronter leur culpabilité inhibante face à la construction sociale de la mère parfaite et à devoir s'adapter à un monde pensé par et pour les hommes. Et c'est une très très belle réussite ce film. Proxima va nous plonger dans les multiples ressentis de Sarah depuis le moment de l'annonce jusqu'au jour du départ de la fusée. L'essentiel dans ce film est donc ce qui se passe avant le départ sur Terre, la préparation, l'entraînement très lourd et la mise en quarantaine qui précède le grand jour. Sarah doit également faire face et faire sa place auprès des deux coéquipiers qu'elle va avoir pour la mission, dont Mike, Matt Dillon, qui incarne ici avec beaucoup de talent, et ça fait très plaisir de le revoir dans un film, un macho américain. Elle doit pourtant encore faire ses preuves pendant toute cette période et faire en sorte qu'on ne la voit que comme une astronaute et non plus comme une femme. La force du film, c'est son grand réalisme avec un aspect quasi documentaire, mais rien de bien étonnant puisque la réalisatrice a fait un long travail de recherche. Elle est passionnée par les astronautes et la conquête spatiale et elle a rencontré notamment de nombreuses femmes astronautes. Elle a aussi tourné dans des lieux qui jusqu'à présent n'avaient jamais été exploités dans ce genre de film, jamais exploités au cinéma tout court, comme Star City ou Baïkonour. Elle signe ici donc un grand film féministe.
Tu savais que ta maman allait partir un jour? Ça te fait très peur, un peu peur.
Un peu peur.
Ce film parlera donc forcément à toutes les mamans qui ont l'occasion, l'obligation de partir en long déplacement professionnel et qui doivent éprouver le même double sentiment qu'éprouve Sarah et qui est formidablement bien montré à l'écran, à savoir un sentiment d'accomplissement professionnel, mais également une pointe d'amertume empêchant la concentration et la plénitude. Parce que elles doivent gérer, tout comme Sarah, la culpabilité et l'appréhension qui déchirent quand on laisse ses enfants. Alice Winocourt signe ici une mise en scène souvent très froide comme un écho à l'impossibilité qu'a Sarah à exprimer ses émotions. C'est son corps qui s'exprime bien souvent à sa place. Elle se transforme physiquement en tant qu'astronaute et Les émotions et la communication avec sa fille passent également beaucoup par le corps lors de retrouvailles extrêmement tactiles. Les deux actrices sont parfaites. Eva Green excelle dans ce rôle très physique et très psychologique. Et la petite Zélie Bouland-Lemel est parfaite également, incarnant un personnage qui alterne entre rationalité et une forme d'étrangeté et de poésie. Proxima rend donc un bel hommage aux femmes astronautes qui ont confié à la réalisatrice les photographies prises avec leurs enfants, que l'on voit d'ailleurs apparaître au générique final. Et c'est un film qui rend hommage à l'émancipation des femmes d'une manière générale. On devrait avoir beaucoup plus de films au cinéma abordant ce thème-là.
C'est demain soir que tu pars. Maman, tu me manques.
Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de sauver des vies. Alors, pour notre bien, restons loin et écoutez Radio Campus Tour.
Je crois que c'est l'heure.
De quoi ?
Du documentaire.
À quoi ça te servira de savoir ce qui est vrai ?
Connaissez-vous le syndrome de fatigue chronique ? Personnellement, j'avais vaguement entendu ce nom et je croyais comprendre plus ou moins ce que c'était. Fatigue chronique, bah, tout est dans le titre, quoi.
I don't know what I did to myself. I don't think I can get up off the couch.
Puis je suis tombée sur le documentaire Unrest de Jennifer Brea. 1h30 qui m'a fait réellement découvrir le syndrome de fatigue chronique. Alors oui, comme son nom l'indique, il s'agit d'une maladie où l'on est très souvent fatigué. Mais plus que ça, les malades sont parfois cloués au lit pendant des jours, voire des mois, voire des années. Le syndrome de fatigue chronique, c'est aussi des difficultés à parler, des troubles de concentration, de la mémoire et j'en passe. Dans Unrest, j'apprends que ce syndrome touche des millions de personnes dans le monde, que les recherches sont encore balbutiantes, que certains malades voient leur vie défiler sous leurs yeux, depuis leur lit, sans espoir d'amélioration. Car 25% des malades sont cloués au lit. Jennifer Brea a 28 ans quand la maladie se déclenche. C'est une doctorante brillante à Harvard. Elle fait beaucoup de sport, a un grand sourire, vient de se marier. Bref, tout va bien dans sa vie. Mais d'un coup, travailler, marcher, monter les escaliers relève presque de l'impossible sans qu'elle comprenne pourquoi. Alors, elle retrouve une de ses passions de jeunesse, filmer. Elle prend sa caméra et se filme avec sa maladie, se filme pour comprendre elle-même ce qui lui arrive, se filme pour les autres, dans tous ces moments où on ne soupçonne pas qu'elle va mal. Car c'est facile d'être invisible avec le syndrome de fatigue chronique, c'est facile de pas se rendre compte de tout ce qui se passe derrière la porte. Jennifer Brea peut toujours sortir, parfois, mais souvent, elle ne peut pas se lever de son lit plus de 2 fois par jour. Sa vie, c'est que porter la caméra, ben c'est souvent trop compliqué. À ses côtés, son mari Omar fait donc office d'assistant réalisateur, en même temps de soutien moral indispensable et d'accompagnateur chez les médecins.
The doctor would tell me, you're just dehydrated. Everyone gets stressed.
Les médecins, parlons-en. Jennifer Brea ne filme pas juste son quotidien pour montrer cette maladie trop souvent oubliée, mais aussi car elle est indignée. Indignée contre les errances médicales, contre les erreurs de diagnostic bien trop courantes, contre le fameux « c'est dans votre tête », symptôme malheureux d'une maladie quand elle est très féminine et c'est le cas du SFC. Comme pour toutes les maladies où il n'y a pas encore de traitement, le périple médical, bah, c'est aussi du bricolage, des tentatives faites maison pour aller mieux. Et Jennifer Brea filme aussi les traitements farfelus qu'elle essaie, allant de l'injection de verre à dormir dehors dans une tente pour éviter les moisissures supposées toxiques.
Then I went online and found thousands of other people just like me.
Yeah, I'm completely bedridden.
It's just like I'm just watching my life disappear.
La réalisatrice décide en cours de chemin de s'engager plus largement pour sensibiliser sur sa maladie. Elle contacte d'autres malades et organise des Skype de lit à lit. Certains doivent accrocher leur caméra au-dessus d'eux car ils ne peuvent même pas lever la tête. Mais la communauté est réelle, elle est bien là et ils décident même d'organiser une manifestation. Si la plupart d'entre eux ne pourront pas y aller, tant pis, un parent ira à leur place ou on placera des chaussures par terre en leur nom. Ce documentaire n'a pas de morale, pas de fin heureuse ni malheureuse. C'est un témoignage de résilience, de courage et de force continue. Et je ne peux que vous encourager de partir à la rencontre de ces femmes et ces hommes malades du syndrome de fatigue chronique. Unrest de Jennifer Brea est à retrouver sur Netflix.
On est de retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée du lundi au vendredi de 11h30 à midi et de 16h30 à 17h, et ce pour toute la durée du confinement. Les confinés parlent aux confinés, puisque je vous rappelle également que les chroniqueurs qui participent à cette émission sont confinés chez eux. On va découvrir le grand détournement, la classe américaine, et ensuite on retrouvera l'équipe dont se porte pas plus mal, qui vous fera découvrir le biathlon en Indre-et-Loire. Vous êtes toujours sur le 99.5 FM dans l'émission On se porte pas plus mal. Échauffez bien vos zygomatiques car on va passer à l'interview décalée.
Ah merde, attends, j'ai
envie. Ah, c'est pas ça, c'était. Voilà.
Voilà.
Bonjour, c'est Bernard Canetti. On est tellement sûr que ça va marcher, on est tellement sûr que ça va vous plaire que c'est l'heure de l'interview sport.
Et on retrouve Vince et Chaka.
Oui, alors aujourd'hui, on reçoit un invité un peu particulier. Jean-Michel Béathlon, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça.
Alors, vous êtes président d'un club un peu particulier en Indre-et-Loire. Vous êtes président d'un club de biathlon, c'est
ouais,
ça ?
C'est ça, oui.
Alors, comment vous est venue l'idée de créer un club de biathlon en Indre-et-Loire ? Parce que c'est assez étonnant quand même.
Déjà, quand tu regardes mon famille, tu rajoutes plus de lettres, ça ferait Jean-Michel Béathlon, quoi. Déjà, toi, j'étais un petit peu prédestiné pour ça. Enfin, bon, sinon, pour la faire court, j'avais trois passions dans la vie. J'avais le tir à la carabine, la marche nordique avec ma femme Véro, et la chaîne L'Équipe. Et là, bing, le biathlon, c'est devenu pour moi une évidence. Quoi. Et puis bon, faire un sport couché, ça me paraissait quand même pas trop mal.
Ah oui, donc c'était logique, finalement. Et finalement... Mais alors, comment avez-vous adapté ce sport d'hiver en Indre-et-Loire ? Comme moi, ça me questionne, ça.
Écoute, pour la carabine, il n'y a pas besoin d'habiter à fond remue pour dégommer les cibles, hein, excuse-moi de te dire ça. Et puis, le ski de pont, j'ai mon petit secret.
Ah, un petit secret ? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Ouais, bon, allez, ok. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui nous écoute. Bon, nous, les biathloneurs, on a autre chose à foutre que d'écouter les guignols à la radio, quoi qu'il arrive. Je le dis tout de suite.
Oui, vous avez autre chose à foutre, ouais. Apprendre à parler correctement, peut-être.
Oula, ils sont dans les têtes, ouais, mais ils sont moins forts. Bon, mon secret, voilà, je le fais. C'est mon pote Christian, c'est Cricri dans le métier. Il est charcutier traiteur. Il a des chambres froides et des camions frigo. Et lui, là, l'astuce. J'en ai dans la cabosse, moi, mon gars.
L'astuce, c'est-à-dire, là, je vous avoue, je comprends pas bien le truc, là. Vous faites quoi avec tout ça, là?
Toi, t'as pas monté l'eau sur un lidon, hein. C'est pour finaux. Bon, c'est simple. Je regarde la météo. Et dès qu'il y a de la neige en Auvergne, je prends le camion frigo de Cricri. J'arrive là-bas, bing, je charge la neige fraîche. On met tout ça dans cette chambre froide, et hop, t'es parti pour l'entraînement.
Ah, mais c'est pas très légal tout ça, là. Votre club, il est reconnu par la Fédé ? Et vous faites des compétitions ?
Ouais, bah, je t'avoue que c'est un peu le problème, quoi. Ils m'emmerdent avec leur paperasse, ces cons-là. Bon, et puis bah, le problème c'est que. Souci à la fin d'un entraînement, quoi. Ça m'a pas fait une bonne pub.
Ah, mais. Vous faites des entraînements ouverts au public dans ces conditions ? Dans une chambre froide comme ça, là ?
Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, je te dis, j'ai eu un petit souci une fois, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, j'ai un créneau pour les 10-12 ans. Ouais. Bon, tu vois le genre, quoi.
Ouais, je vois le genre.
Bon, ils sont pas très costauds, quoi. Bon, et là, c'est la boulette. En fin de séance, qu'est-ce que je fais comme d'hab? Je referme la chambre froide, quoi. Et je m'étais pas rendu compte qu'il en manquait deux, quoi, bordel. Truc ballot, ça peut arriver à tout le monde, quand même. Bon, c'est vrai que sur un groupe de 5 gamins, des couillons peuvent se rendre compte qu'il en manque deux, je te l'accorde.
mais attendez, c'est grave, ça, Jean-Michel, là. Vous me faites peur. Après ça, j'imagine que vous avez arrêté votre activité, non? Et vous m'appelez d'où d'ailleurs là? Vous êtes appelé au registre là, c'est pas possible.
Tu vas te détendre mon cocotte, sinon je vais te faire visiter ma chambre à froide, moi. Enfin, pour répondre à ta question, mon club il est toujours en activité. Je souhaite le développer quand même, quoi. Donc avec mon équipe, on est prêt à accueillir toute personne qui souhaite découvrir le biathlon tourangeau, qui se pratique en indoor, comme je vous l'avais compris.
D'accord. Bon, bah, merci Jean-Michel. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui viendront vous voir, mais enfin, bon, le message est passé en tout cas. Merci d'avoir partagé votre expérience. Et,
merci, Guillaume.
Et on vous dit à bientôt.
Aussi, allez, salut mon grand.
Au revoir complot.
Française, français, les confinés parlent tout confiné. Pour une raison indépendante de notre volonté, nous ne sommes pas en mesure d'assurer la totalité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. Retrouvez à l'antenne podcasts et contenus originaux. Alors, soyez patients. Restez chez vous, on s'occupe de tout. Radio confinée, mais radio en activité. Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur le web www.radiocampustour.com.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un téléfilm avec la distribution la plus incroyable du monde, la classe américaine, Le Grand Détournement.
Et puis je vous rappelle la principale information de cette édition, la disparition subite de George Abitbol, qui depuis plus de 15 ans portait officiellement le titre de l'homme le plus classe du monde. L'Amérique vient de perdre un de ses plus prestigieux ambassadeurs.
Où vous en êtes avec la nécro de George Abitbol?
Vous bossez un peu?
On a pensé qu'on devrait expliquer ses dernières paroles.
Monde de merde. Vous avez raison. L'homme le plus classe du monde meurt et ses dernières paroles, c'est « monde de merde ». Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Vous faites une enquête sur George Abitbol, l'homme le plus classe du monde?
Oui, vous l'avez connu, vous. Hein.
George Abitbol, c'était loin d'être impérable. Jamais il se serait vanté comme je viens de le faire sur la cuisine. Humainement, il avait la classe.
À quoi vous pensez si je vous dis « monde de merde »?
Au revoir.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi? Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu goûtes des trucs bien meilleurs qu'ici.
Moi, jamais parlé comme ça, en plissant le visage.
Je me suis fait casser la gueule par un mec, une brute. Il voulait que je parle, mais j'ai rien dit du tout. J'ai pas dit où en était l'enquête, malgré la douleur.
J'aimerais bien passer à l'acte sexuel.
La mort de Georges n'était pas accidentelle. Il s'est fait assassiner.
Moi, vous pouvez me donner l'heure, s'il vous plaît?
Oui, 9h01.
Ah, vous êtes pressible.
Oui, vous voulez niquer avec mon ami et moi?
J'ai peut-être qu'un bras, mais je suis pas manchot.
Naturellement.
J'ai jamais été homosexuel, et encore moins pédéraste.
Ça veut dire quoi, monde de merde?
Très bien, puisque vous ne voulez pas m'aider, allez vous faire enculer.
Attendez, les gars, je sais pas encore ce que veut dire monde de merde.
La classe américaine, Le Grand Détournement est un téléfilm français, écrit et réalisé par Michel Hazanavicius et Dominique Mezeret, diffusé le 31 décembre 1993 sur Canal+. Le film est un mash-up, un mélange d'images d'archives. Il est composé d'extraits de films de la Warner Bros. Réalisés entre 1952 et 1980, ainsi qu'un bref extrait d'un épisode de la série télévisée française Maigret, monté et doublé afin de créer un film inédit. Le film est une parodie qui réinterprète les scènes et dialogues des acteurs des films qu'il utilise, les reprenant parfois plusieurs fois, pour former des situations loufoques et suivre une histoire au ton délirant et comique. L'histoire débute avec la mort de l'homme le plus classe du monde, George Abitbol, joué par John Wayne, au large de l'atoll de Pompom Galley. Les journalistes Dave, joué par Paul Newman, Peter, joué par Dustin Hoffman, et Steven, joué par Robert Redford, enquêtent sur les dernières paroles d'Abitbol, monde de merde. Au cours de leur enquête, les journalistes approchent toutes les personnes qui ont connu Abitbol durant sa vie. Le film, aux propos et aux dialogues volontairement graveleux, se pose volontiers en hommage au Citizen Kane d'Orson Welles. La présence de ce dernier dans le film qui informe le spectateur que le film se pose davantage en plagiat qu'en dédicace de l'œuvre mythique du cinéaste reconnu.
Bonjour. C'est moi Orson Welles.
Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je vois trop arriver.
Oh, Rosebud!
À l'occasion de ses 70 ans, en 1993, la Warner délivre à Canal+ l'autorisation exceptionnelle d'utiliser les extraits de son catalogue, environ 3000 titres. Le but officiel était de permettre de monter un petit film promotionnel, avec néanmoins quelques recommandations, ne pas toucher, entre autres, ni à Clint Eastwood, ni à Stanley Kubrick. Michel Hazanavicius et Dominique Meseret y voient une occasion unique d'outrepasser les problèmes de copyright et de royalty habituels, réussissant le tour de force de réaliser un long métrage complet en s'adjoignant les services des authentiques comédiens de doublage de l'époque des personnages détournés. La voix de Raymond Loyer, l'acteur de doublage attitré de John Wayne et celle de Roger Rudel, la voix familière et nasillarde de Kirk Douglas et Richard Widmark, entre autres. On y retrouve également les voix d'Alain Chabat, Dominique Farrugia, Jean-Yves Lafesse et de Lionel Abelansky, entre autres. Ce film est un véritable chef-d'œuvre et il se regarde très facilement et se présente comme un vrai hommage au cinéma de l'âge d'or d'Hollywood. Le langage fleuri n'est pas forcément à mettre entre toutes les oreilles, surtout pour les plus petits, mais pour les plus grands, c'est un vrai régal de se dire qu'avec la distribution fictive du film, on est devant certainement le plus grand film de tous les temps, s'il était réel. C'est devenu une des grandes références de la pop culture française. On retrouve des inspirations dans le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la musique, et ce film a permis à des vidéastes de se lancer dans le détournement des extraits de films comme par exemple Mosinor. Et comment ne pas parler du fait qu'un de ses réalisateurs, Michel Hazanavicius, réalisera quelques décennies plus tard la série des films OS 117 et The Artist, qui remportera entre autres l'Oscar du meilleur film. Voilà, c'est tout pour cette chronique. Respectez le confinement, continuez à écouter Radio Campus Tour et on se retrouve très vite. Salut à toutes et à tous.
Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon.
Oh non, pas vous.
This then is stereophonic sound sculpture in space.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour En attendant que le monde change, même heure et même place avec Jean-Pierre. Nous, on va se quitter en musique et vous retrouvez Madame CSA qui va vous rappeler les règles à respecter durant le confinement. Quant à nous, on se retrouve mercredi. D'ici là, prenez soin de vous, continuez à respecter le confinement et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro. Salut à toutes et à tous.
Dans son auto, l'homme au dur profil se dit qu'il fait vraiment un sale boulot. La fille blonde traquée se faufile et s'incline en comme un roseau. Mais comment peut-elle faire pour se tirer de ce maudit ghetto? We'll be right back. sa vie privée. Il surveille sa beauté blonde depuis qu'il sait qu'elle l'a trompé avec ce foutu musicien noir de jazz qui a composé la musique.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.